religieuse, aujourd'hui et demain. En compagnie de Mathieu Lavigne et de ses invités.
Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de Vie religieuse, aujourd'hui et demain, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. Chaque semaine, nous vous présentons des entrevues et des témoignages de sœurs, frères, prêtres et de laïcs qui s'expriment sur des thématiques liées à la vie de l'Église et des communautés religieuses canadiennes, ainsi que sur leurs engagements dans la société d'aujourd'hui et de demain. Alors cette semaine, deuxième épisode en compagnie de sœur Catherine Aubin, dominicaine de la Congrégation romaine de Saint-Dominique, congrégation où elle est entrée en 1984 à l'âge de 25 ans. Titulaire d'une maîtrise en psychologie, sœur Catherine est également docteure en théologie spirituelle. Elle enseigne la théologie sacramentelle et spirituelle, notamment à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome et ici même, à Montréal, à l'Institut de pastoral des Dominicains. Sœur Catherine Aubin est aussi collaboratrice à Radio Vatican ainsi qu'au mensuel Femmes, Église, Monde de l'Osservatore Romano. Elle est l'auteur de plusieurs livres, dont Prier avec son corps, publié aux éditions du Cerf en 2005, de même que Les saveurs de la prière et Prier avec son cœur, la joie retrouvée, deux titres publiés chez Salvator. Et c'est justement sur ce sujet, celui de la prière, que nous ouvrirons cet épisode. Sœur Catherine, bonjour, merci encore d'être avec nous cette semaine.
Bonjour Mathieu, merci de votre invitation.
Alors Sœur Catherine, une constante traverse vos écrits, et vous l'avez évoqué la semaine dernière également, ce désir de faire aimer la prière. Alors, inviter les gens à entrer en eux par la prière, est-ce que c'est pas un énorme défi dans un monde où on est toujours sollicité, invité à sortir de nous-mêmes pour aller vers les écrans désormais omniprésents? Comment faire aimer la prière dans ce contexte?
Je ne sais pas si c'est un défi, je ne sais pas si on y arrive, mais ce qui m'habite profondément, c'est que Jésus, dans son évangile, nous y invite. Priez, priez, veillez et priez, saint Paul va le redire, priez sans cesse. Les premiers chrétiens vont être traversés par ce désir de comment prier sans cesse. Il y a le livre, le récit d'un pèlerin russe, que je conseille à tous les auditeurs de lire. C'est vraiment l'apprentissage de cette prière, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Pourquoi est-ce que c'est important la prière ? Il y a une autre femme qui est très importante pour moi dans ma vie, c'est Ethyl Soum, avec son livre « La vie bouleversée ». Qu'est-ce qu'elle nous dit cette femme et qu'est-ce que nous disent les saints et saint Dominique, entre autres, pour qui la prière était au centre ? Ils nous disent que nous sommes créés pour prier. C'est-à-dire que nous n'avons pas à prier, nous avons à laisser la prière vivre en nous. Vous voyez, c'est ça l'objectif et le défi. C'est pas tellement des techniques ou des exercices de prière, mais retrouver la prière, c'est retrouver qui on est. Saint Augustin disait à propos de ce lieu du cœur, là où je suis, ce que je suis. Eh bien, on peut paraphraser cette phrase en disant, quand je prie, quand je retrouve la prière, quand je laisse la prière agir en moi, je suis ce que je suis. C'est-à-dire que je connecte avec ce Dieu dont le nom est « Je suis celui qui est ».
Et la prière peut sembler être une démarche cérébrale, intérieure, sollicitant la tête, voire le cœur, mais peu le corps comme tel. Mais à vos yeux et à la suite de Saint-Dominique, le corps tient une place primordiale dans la prière. Expliquez-nous comment.
Alors, c'est vraiment étonnant quand on se pose cette question-là, parce que quand vous avez un ami, une amie, vous ne vous posez pas la question de savoir que pour fréquenter cet ami, il faut lui serrer la main, le regarder, lui sourire. Il y a donc tout le corps qui est en jeu dans l'amitié. comment se fait-il que dans la prière, nous ayons enlevé le corps ? Non, dans la prière, c'est une amitié. On devient ami de Dieu. Donc, on le regarde, on l'écoute, on embrasse les icônes, on s'incline, on se met à genoux, on se prosterne pour lui dire « Mais il n'y a que toi, Seigneur !» ou on étend les bras comme Saint Dominique pour dire « Mais Seigneur, c'est toi la vie, c'est toi la joie !» C'est-à-dire que notre corps exprime profondément ce qu'est notre cœur. Comment, j'ai envie de dire l'inverse, comment peut-on prier sans son corps ? Et surtout sans ses cinq sens, comment peut-on prier sans son corps ? La prière, elle inclut tout ce que nous sommes, parce qu'elle est inscrite. Donc elle est inscrite dans ce corps qui est « je suis mon corps » et non pas « j'ai un corps ». En ce moment, vous me regardez, Mathieu Lavigne. Et si vous ne me regardiez pas, ben, je ne pourrais pas vous parler comme je vous parle. Mmh. Donc il y a un échange de regards. La prière, c'est la même chose. Alors vous allez me dire « on ne voit pas le Seigneur ». Mais justement, c'est ça ce qu'il faut apprendre à aiguiser. C'est aiguiser les sens intérieurs, les sens spirituels. Ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles, quoi.
Et donc, justement, quelle est la place des cinq sens dans la prière? Là, vous évoquez, bon, on a évoqué le toucher, mais il y a aussi pour vous cinq sens spirituels,
voilà,
sens intérieurs.
Exactement. Il y a l'écoute, il y a les yeux, il y a le toucher, il y a le goût, il y a l'odorat. Alors, ça, c'est une grande tradition hein, dans l'Église. Jésus est ressuscité. Comment va-t-on le toucher? Hein, ça va être la grande question.
Oui.
Comment entrer en contact avec lui? Et Origène, le père de la doctrine des cinq sens spirituels, dit mais nous voyons au-delà de ce qui est visible. Et donc les pèlerins d'Emmaüs qui marchaient avec Jésus ne le voyaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un geste, le geste de la fraction du pain, et leurs yeux se sont ouverts. Les oreilles, la même chose. Comment se fait-il que ceux qui étaient avec Jésus, certains l'ont entendu, d'autres pas? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Jésus continue de nous parler à travers l'Esprit Saint, à nous d'ouvrir les antennes, d'ouvrir ces cinq sens intérieurs pour l'entendre, pour le voir. Pour le voir à travers quoi? À travers vous, Mathieu, à travers Jean-Michel, à travers notre technicien derrière.
Ah, oui.
Exactement, à travers... C'est à nous, le Seigneur est au milieu de nous. C'est son nom, Emmanuel. Je suis avec lui, avec nous, nous sommes avec lui. Pourquoi ne le voyons-nous pas? Hein, il le dit souvent, Jésus, dans l'Évangile. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Et pour moi, ça répond à une grande, grande question. C'est la question de Dieu à Adam, Genèse chapitre 3. Où es-tu, Adam? Et c'est la question que Dieu nous pose à chaque instant. Où es-tu? C'est-à-dire que ce n'est pas une question spatiale, vous l'entendez bien,
oui.
C'est une question qui provoque à la rencontre. Où en es-tu au-dedans de toi? Où es-tu si tu ne m'écoutes pas? Saint Augustin fait parler Dieu en disant « Où es-tu, homme? Tu n'es chez toi que de passage. »
Donc il y a quelque chose aussi de du quotidien, de la présence, en quelque sorte. Prier au quotidien, c'est aussi être dans l'instant présent.
Exactement, c'est être complètement dans l'instant présent. C'est notre seule richesse. Le passé, il est passé. L'avenir ne nous appartient pas. Quand Dieu se manifeste-t-il à nous? Maintenant. Si moi, je n'y suis pas, eh ben, le temps de la visite, comme dit Jésus à Jérusalem, « Jérusalem, Jérusalem, tu as manqué le temps de la visite de Dieu. » On peut dire que chaque instant est le temps de la visite de Dieu. Alors bien sûr, dans l'obscurité parfois, dans quelque chose qu'on ne sent pas, mais il est là.
Donc c'est retrouver cette capacité à avoir,
exactement,
à entendre, vraiment.
Exactement, à toucher vraiment. Oui. Vous savez, les techniques de développement personnel, les techniques de psychologie positive ou autres, pour ne citer que Christophe André comme psychologue français, s'appuie énormément sur l'instant présent. Et nous, chrétiens, nous avons ça dans notre tradition depuis l'Évangile. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous préoccupez pas. Jésus nous le redit aujourd'hui, à cet instant, voici le moment favorable. Pourquoi a-t-on oublié la richesse du temps présent? Que se passe-t-il pour que nous soyons sans cesse dans des calculs, dans des projets, dans des anticipations, dans des prospectives, alors que non, là, les apôtres, ils n'étaient que 12 et ils ont enflammé le bassin méditerranéen et après le monde entier. Dire que nous, il y a un prêtre dominicain, quand je suis arrivée à Montréal, qui me disait comment se fait-il que dans les années 70-80, alors que nous étions beaucoup plus nombreux, nous n'ayons pas enflammé le Canada. Et je lui ai redit la question il y a 15 jours, 3 semaines. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Il m'a dit non, je n'ai pas trouvé la réponse. C'est-à-dire que nous sommes instruments de Dieu. Et si nous nous laissons traverser par cette force, regardez Gandhi, regardez Martin Luther King, ils sont seuls. Comment un seul homme peut enflammer? Regardez Jean Vanier. Comment un seul homme peut enflammer le monde, peut être... Et regardez les fondateurs de Montréal, Jérôme Le Royer, tout seul, de la Flèche, une vision, la Maison Neuve, Jeanne Mance, des fous, des fous, grâce à qui aujourd'hui nous sommes ici.
Oui. Et à la lumière de vos travaux sur la place du corps dans la prière, quel regard est-ce que vous posez sur notre rapport au corps aujourd'hui? Donc là, on a compris le regard que vous pouvez poser sur la société. Donc, vous nous invitez à revenir au temps présent, à revenir à nous, à qui on est vraiment. Et quel regard, donc, quel regard vous portez sur notre rapport au corps?
Ça, c'est une grande, grande question. Le corps, c'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, mais c'est aussi le lieu de la rencontre avec les autres. Donc, je suis mon corps, je suis tout ce que je suis à travers mon corps. Le corps, c'est la tente de la rencontre, c'est la demeure de Dieu. C'est-à-dire que j'ai un regard extrêmement positif sur le corps, que ce soit un corps souffrant ou un corps en bonne santé. Le corps est le lieu de la rencontre.
Mais est-ce que vous croyez que notre société a un peu oublié justement cette dignité du corps?
Je pense qu'elle fait fausse route quand elle fait du corps un objet, un objet de consommation, un objet de séduction, un objet pour où on s'arrête au corps, alors que le corps, comme dit Jean-Paul II, est sacrement. Il est donc ce qui veut dire qu'il révèle l'invisible, et c'est ça qu'il faut nous travailler, chrétiens, c'est-à-dire révéler au monde que le corps est bien plus et porteur d'une signification spirituelle. Edith Stein, qui voyant une personne s'agenouiller alors qu'elle n'est pas encore chrétienne, en voyant une personne s'agenouiller dans une cathédrale, dira je n'ai jamais oublié ça, le dialogue vivant entre une personne et Dieu, entre Dieu et une personne. Et elle l'a vu à travers quoi? À travers une génuflexion, à travers un agenouillement. Donc le corps exprime bien plus que nos pauvres paroles notre relation. Qu'est-ce que nous voudrions le jour où nous allons passer, le jour où nous allons mourir? Qu'est-ce que l'on veut? On veut simplement pouvoir toucher la main de quelqu'un, qu'une personne nous tienne par la main. C'est beaucoup plus que des paroles. Vous voyez l'importance du corps.
Oui, tout à fait. Et à l'automne 2017, vous avez donné à l'Institut pastoral des Dominicains un cours sur la dimension thérapeutique de la liturgie. Qu'est-ce que la liturgie peut contribuer à soigner?
Merci de me poser cette question parce que c'était un défi ce cours. Oui. C'était quand on m'a demandé de faire ce cours, je me suis dit waouh. Et effectivement, j'ai employé cette expression dans d'autres cours qu'il y a une valeur thérapeutique dans la liturgie, laquelle? Celle de nous décentrer de notre ego et de nous recentrer sur le cœur profond. C'est ça la valeur thérapeutique de la liturgie. C'est-à-dire que quand je chante les psaumes, quand je vais à l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe? Je sors de moi-même pour entrer dans la prière de l'Église. Je me mets en communion avec tous mes frères qui sont dans le monde entier. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans la liturgie. Je suis connectée avec des millions de gens qui, au même moment, prient ensemble le même Dieu. Donc je me décentre de mon ego et je me recentre sur ce qui fait l'essentiel, c'est-à-dire la prière du Christ en moi. C'est-à-dire que quand je prie un psaume, et c'est ça la valeur thérapeutique des psaumes, c'est que je peux m'identifier au sentiment que vit le psaume, j'exulte de joie en toi mon Dieu, je bondis de joie grâce à toi, mais je peux aussi m'identifier au désespoir que vivent des personnes qui sont dans la détresse. Donc, je ne suis pas centrée sur moi, je vais être centrée sur les paroles du psaume qui vont me décentrer de mon ego pour me centrer sur la souffrance qu'il y a en Chine, en Inde, en Birmanie, et qui va me faire prier avec les mots même de Dieu, vers Dieu. Vous voyez, ça a quelque chose d'immense, quoi, la valeur thérapeutique de la liturgie et des psaumes. Les psaumes, pour moi, sont, si je devais ouvrir un cabinet de psychologue aujourd'hui, ça serait mon outil,
oui.
Les psaumes. Apprendre les psaumes, les chanter et puis se connecter avec celui qui les a composés, c'est-à-dire David qui était inspiré par Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc quand je dis les psaumes, ce n'est plus moi qui prie, mais c'est le Christ qui prie en moi, comme le dit saint Paul.
Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de prier comme entrer en soi, mais aussi prier pour se décentrer.
Exactement. Exactement. C'est ça le paradoxe,
oui, hein, oui.
C'est que notre vie chrétienne est un décentrement continuel de nos préoccupations et de notre inclination, j'ai envie de dire, tellement naturelle et banale et quotidienne et routinière, c'est-à-dire cette inclination à tout rapporter à soi, je, mm-hmm. Et puis se décentrer, c'est-à-dire se mettre au service, c'est toi qui comptes. Qu'est-ce que tu me dis en ce moment, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est-à-dire ce rapport continuel avec l'Esprit-Saint qui me parle. Donc, un décentrement de mes préoccupations et un centrement sur qui il est et qu'est-ce qu'il me demande en ce moment. C'est vrai que ça demande, comme dit l'évangile d'hier, d'être éveillé. D'être éveillé, c'est-à-dire j'arrête ma routine, j'arrête de croire que j'ai raison, j'arrête de croire que je programme tout. Non, aujourd'hui, comme dit le Père Carré, je commence. C'est nouveau. C'est une page blanche.
Sœur Catherine Aubin, on peut vous entendre sur les ondes de radio au Vatican depuis 2005. Quelle place prennent les médias dans votre démarche? Est-ce qu'être présente dans les médias, c'est pour vous une forme de prédication?
Je me suis jamais posé la question pour vous dire, c'est drôle, hein, mais merci de me la poser. Ça s'est fait tellement aussi sans le vouloir, ce qui m'est demandé à Radio Vatican, que c'est après que je me suis rendu compte de l'importance d'interroger des personnes, l'importance de faire cette émission Livre pour Dieu. C'est vrai que ça donne la possibilité. Moi, ce que j'aime dans la radio, c'est de donner la parole aux autres. Mmh. C'est vraiment, comme vous le faites là en ce moment, Mathieu, et merci, mais c'est vraiment permettre à des personnes qui portent beaucoup de pouvoir l'exprimer. Et puis la radio, c'est le moyen du pauvre. Hein. C'est très simple. Ouais. En Afrique, ils ont tous leur petit appareil sur l'oreille. Ils sont beaucoup plus informés qu'on ne le croit. Et c'est la radio, c'est un moyen qui rejoint des milliers et des millions de personnes avec une voix. Ça laisse très libre la radio, beaucoup plus que la télévision, beaucoup plus que le visuel. Et puis c'est vrai que là, la parole, je rejoins Saint Dominique disait de Saint Dominique, il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Et j'ai envie de dire, je crois que ma vie dans les médias, ma contribution dans les médias, c'est ça. C'est laisser parler Dieu ou le faire parler.
Il y a cette image que vous avez donnée en entrevue où vous dites à chaque fois que vous entrez en onde, vous pensez à cette personne qui roule dans la nuit et qui peut-être va tomber sur Radio Vatican et entendre un intervenant, une intervenante qui pourrait changer sa vie.
Oui, ça c'est vraiment, ça a été mon... Vous allez encore me faire pleurer, Mathieu. ça a vraiment été mon moteur à la radio. C'est là, je vais essayer de pas pleurer, donc on va essayer de rigoler. Ça parce que ça m'émeut beaucoup, quoi. C'est vrai que les interviews que j'ai eu le bonheur de réaliser pendant 10 ans pour l'invité du dimanche, ça a été mon fil rouge. Mon fil rouge, j'avais 2 fils rouges. C'était celui qui travaille la nuit sur son camion et qui va ouvrir à cette émission. Et le deuxième fil rouge, c'est que quand j'avais quelqu'un devant moi, c'était qu'il descende dans ce lieu de fragilité, pour nous dire comment il a été au contact de sa fragilité, comment Dieu s'est révélé avec lui. Et j'ai eu la chance d'interviewer pas que des catholiques, hein. J'ai des protestants, des juifs, des athées, des gens qui étaient très loin et qui, et par grâce, assez souvent on peut le dire, les gens se sont prêtés à cette interview et nous ont emmenés dans un espace où nous avons vu ou entendu ce qui peut se passer pour quelqu'un quand il se laisse bousculer, quoi.
Oui, en tout cas, c'est un excellent plaidoyer pour la radio et je vous en remercie. Et allons maintenant vers la nouvelle version du Notre Père. Donc, je vous amène, on revient sur le thème de la prière. Donc, à l'occasion du premier dimanche de l'Avent, les fidèles ont prononcé en France, je le précise, juste avant la communion, la nouvelle version du Notre Père, donc une version qui vient modifier le 6e verset de la version utilisée depuis 66. Donc, au lieu de dire « ne nous soumettons pas à la tentation », les fidèles sont désormais invités à dire « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Au Québec, cette version va être utilisée à partir de l'Avent 2018. Alors, sœur Catherine Aubin, comment avez-vous réagi à cette nouvelle version du Notre Père?
Alors, je vais vous le dire en toute honnêteté, moi je le dis déjà depuis très longtemps.
C'est parce une que
Non, c'est pas ça, c'est que quand on enseigne sur la prière, on enseigne sur Notre Père, et oui. Donc la traduction c'est « ne nous laisse pas succomber en tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation ». Donc c'est dire au Seigneur « donne-moi la force de ne pas entrer en tentation ». Et c'est très très important parce que dans cet petit verset est inclus, sans le savoir, et c'est là où c'est important de donner des pistes, tout l'enjeu du combat spirituel. Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? C'est ce combat que nous avons à mener tous les jours avec nos propres inclinations, mais aussi celui qui voudrait empêcher que nous soyons amis de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va opérer, il a une tactique, hein. La tactique du démon, c'est le titre d'un livre de Lewis, que je conseille aux auditeurs de lire, qui est très très drôle, parce que la tactique est toujours la même, c'est-à-dire on est tenté par mode de stimuli, par mode de... Donc c'est là-dessus que la publicité joue énormément, oui. Hein, donc des chocolats, des choses bonnes à manger, puis alors on consent, c'est-à-dire qu'on... Non, pardon, on commence à discuter avec cette tentation, là c'est une petite tentation, mais il peut y avoir des plus grosses tentations, puis à un moment donné, on consent à la tentation et on tombe. Là, ce que je veux dire par là, c'est quand on dit « ne nous laisse pas entrer en tentation », on demande au Seigneur la force de garder notre cœur. Hein? Le problème, c'est que la tentation, elle se conçoit d'abord dans le cœur. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui ment, son geste n'est que l'expression de ce qu'il a conçu auparavant dans son cœur. Donc quand on demande au Seigneur « ne nous laisse pas entrer en tentation, donne-moi la force de ne pas, de garder mon cœur, de dire non à la tentation, de ne pas ouvrir mon cœur au consentement de faire le mal, quoi. » Alors vous savez, on va pas tous voler, on va pas tous faire des grandes choses terribles, mais on est tous portés à dire du mal de son voisin, on est tous portés à jalouser, on est tous... C'est ça, c'est toutes ces inclinations qu'on a tous, hein, et ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est-à-dire, mais délivre-nous du mal, c'est-à-dire délivre-nous de tout ce qui qui défigure notre beauté originelle. Hein. Nous sommes des êtres beaux, nous sommes créés à l'image de Dieu, et c'est ça ce que nous dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal et libère en nous la joie et la prière ».
Donc, on revient un peu à cette image de soutien, d'amitié aussi.
Exactement.
Oui, oui. Sœur Catherine, merci beaucoup pour votre présence en studio. Ces deux dernières semaines, vraiment, j'aimerais vous donner un abonnement à l'émission et vous avoir avec nous chaque semaine. Merci beaucoup.
Merci, Mathieu.
Alors, je rappelle que Sœur Catherine Aubin est une dominicaine de la Congrégation romaine de Saint-Dominique. Elle enseigne la théologie sacramentelle et spirituelle, notamment à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome et ici même, à Montréal, à l'Institut de pastoral des Dominicains. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, une émission proposée par la Conférence religieuse canadienne. Un amical merci à Anne-Louis Lintz à la régie. Je m'appelle Mathieu Lavigne. On se retrouve la semaine prochaine alors que nous réfléchirons à l'art sacré avec l'artiste jésuite Daniel Leblon et Chantal Turbide, conservatrice du Musée du patrimoine artistique de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. D'ici là, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM. À bientôt.